Via 95 FM vous présente une émission spéciale d'information.
Des élections générales auront lieu le 3 octobre et les enjeux sont nombreux. Emploi, inflation, santé, immigration, environnement. Pour vous aider à faire votre choix, les candidats dans Nicolet Bécancourt sont réunis ce soir pour parler de vos préoccupations. En direct du Centre des arts populaires de Nicolet, via 95, en collaboration avec le Courrier Sud et la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec, vous présente Élections Québec 2022, le débat. Et voici le modérateur de cette soirée, le journaliste Jocelyn Ouellet.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat mettant aux prises des candidats dans Nicolet Bécancourt pour l'élection générale du 3 octobre prochain. Je suis en compagnie de la rédactrice en chef du Courrier Sud, Marie-Ève Veillette. Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir, Jocelyn.
Marie-Ève qui posera des questions aux candidats que nous accueillons aujourd'hui au Centre des arts populaires de Nicolet, par ordre alphabétique, Monsieur Philippe Dumas du Parti québécois, Monsieur Mario Lyonnais du Parti conservateur du Québec.
Bonsoir.
Monsieur Donald Martel de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir, Monsieur Martel.
Bonsoir.
Et Monsieur Jacques Thériault-Wadzo de Québec solidaire. Bonsoir, Monsieur Wadzo.
Bonsoir.
Notez que la candidate du Parti libéral du Québec, Marie-Josée Jacques, a été conviée à participer à ce débat, mais elle s'est désistée dimanche. Donc, chacun des candidats aura d'abord droit à une déclaration d'ouverture d'une minute. Par la suite, le débat sera divisé en cinq thèmes, dis-je bien. Santé, emploi, économie, éducation et environnement. Pour chacun des thèmes, les candidats se verront poser deux ou trois questions et ils auront un temps déterminé pour y répondre individuellement. Chaque question sera suivie d'une période de discussion de 5 minutes. Puis, le tout se conclura par une déclaration de fermeture d'une minute par candidat. Avant l'émission, un tirage au sort a déterminé le positionnement des candidats sur la scène et l'ordre de passage pour chacun des segments de l'émission. Chaque candidat aura la possibilité de répondre en premier au même nombre de questions et d'initier le même nombre de segments de ce débat. L'ordre de passage pour des déclarations d'ouverture et de fermeture est déterminé par ce même tirage au sort. Afin que le débat se déroule dans l'ordre et le respect, nous demandons aux personnes présentes dans la salle de réserver leurs applaudissements pour la toute fin de l'émission et de rester silencieux durant le débat. Alors, c'est parti. En vertu du tirage au sort, Monsieur Donald Martel sera le premier à faire sa déclaration d'ouverture. Alors, Monsieur Martel, pourquoi avoir décidé de vous représenter pour ces élections générales? Vous avez une minute à partir de maintenant.
C'est moi qui casse la glace. Bien, bonsoir à tout le monde. Je veux remercier d'abord la Chambre de commerce via 95, le Courrier Sud pour l'organisation de ce débat-là. Je veux saluer mes collègues Mario, Jacques, Philippe. C'est un moment important, un débat. C'est un passage obligé pour une élection, mais je pense que c'est nécessaire. Je souhaite que le débat se fasse dans l'harmonie. C'est très possible que par la suite, on ait encore à travailler ensemble, mais je ne suis pas trop inquiète par rapport aux personnes que nous sommes ici. Par rapport à moi, je suis député depuis 10 ans. Je sais que j'ai fait un bon travail. Je suis très content des dossiers qu'on a pu faire avancer et je suis très motivé à continuer. Puis c'est pour ça que je me présente de nouveau.
Merci, Monsieur Martel. Monsieur Philippe Dumas, à votre tour. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection?
Oui, bonsoir. Je réitère les mêmes salutations quand même. Mario, Monsieur Wadzo et Donald, merci beaucoup de prendre part à cet exercice-là. Pour ma part, de me présenter comme ça, je l'ai d'emblée, j'ai 29 ans. C'est un choix pour ma génération et celles qui suivront. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux actuels que ce soit dans les 5 ou les 10 prochaines années, oui, qui peuvent nous toucher ici dans notre circonscription, mais je prends aussi parole pour celles qui suivront, pardon, et sans oublier notre grand projet de pays que je porte et que nous sommes encore nombreux de ma génération à porter et pour les suivantes, je pense que c'est le plus grand legs qu'on peut leur faire. Un Québec prospère, un Nicolet Bécancourt prospère et surtout durable.
Merci, M. Dumas. C'est maintenant à M. Jacques Thériault-Wadzo. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? Vous avez une minute.
Oui. Quoi, il me dit oui. Salut à mes collègues qui sont ici présents. Je m'appelle Jacques Thériault-Wadzo. Je suis fier Abénaki de la nation d'Odanak et je suis à mon 7e mandat en tant que conseiller dans ma communauté. Et une des raisons principales pourquoi je voulais me présenter pour défendre la plateforme de Québec solidaire, c'est durant la pandémie, on a vu que le tissu social s'était effrité et que les gens en santé, en éducation, les différents corps de métier, les professions, les gens sont fatigués. C'est des gens fiers, vous êtes tous des gens fiers, mais on est fatigués. Puis a le projet de société de Québec solidaire mérite d'être entendu, mérite d'être débattu. Et l'avenir aussi, je suis un père, j'ai eu mon premier enfant à 47 ans, je l'ai eu sur le tard, puis je voulais garantir un avenir à cet enfant-là pour son avenir réel, mais l'avenir aussi de l'ensemble du Québec. C'est important pour moi, mais c'est important pour les membres de Québec solidaire. Puis c'est important pour la population du Québec qui soit au courant de la belle plateforme qui est et le beau projet de société de Québec solidaire.
Merci, M. Watteau. M. Mario Lyonnais, on termine avec vous. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection?
Bonsoir à tous. Se présenter en élection, c'est une grande décision à prendre. Ça m'a pris quasiment un an à réfléchir, à me décider à y aller. Pourquoi le Parti conservateur, il y avait des valeurs qui m'attiraient, il y avait des choses qui étaient proches des gens, il y avait des projets à développer, à voir avec les gens, être vraiment avec les entreprises, avec les organismes proches de chez nous. C'est une des décisions qui m'a fait prendre d'aller de l'avant. Et aussi, en tant que maire et préfet, j'ai beaucoup d'expérience au niveau municipal, ce que je peux voir pour développer. Et avec la plateforme du Parti conservateur, je trouvais qu'il y avait des liens qu'on pouvait faire avec les municipalités et les MRC pour développer notre Nicolet Bécancour.
Merci, M. Lyonnais. Passons au premier thème de ce débat, la santé. Donc, première question. Au cours des dernières années, l'hôpital Christ-Roi de Nicolet a perdu certains services. Plus récemment, l'urgence du CLSC de Fortierville a été contrainte de diminuer ses heures d'ouverture. De plus en plus, on assiste à une réduction des services de santé de proximité et à une concentration dans des centres urbains, ce qui force des gens à se déplacer pour obtenir des soins. Que comptez-vous faire pour freiner la perte de services en santé de proximité, ou mieux, en rapatrier sur la Rive-Sud? La question s'adresse dans un premier temps à M. Philippe Dumas. Vous avez 60 secondes à partir de maintenant.
Oui, nous, au Parti québécois, puis en fait, je le ramènerai beaucoup à notre circonscription, je crois que la clé, c'est vraiment de faire des CLSC et de nos services de proximité déjà présents, de les renforcer et d'en faire la porte d'entrée pour le réseau de santé. J'ai entendu d'autres partis promouvoir la privatisation comme étant la solution du côté de l'efficacité, mais il faut pas oublier que chez nous, avec un milieu peu densément peuplé comme le nôtre, c'est pas l'efficacité qu'on vise, mais c'est plutôt la qualité des services et l'accessibilité aux services. De même que de créer une nouvelle entité, de créer un nouvel établissement privé à mi-chemin entre le GMF et les urgences. Mais en fait, quand on regarde sur notre territoire, on a déjà les réponses et on doit les consolider. Donc, ce que je compte faire, en fait, c'est vraiment une des clés pour donner de l'air au milieu de la santé.
Merci. Oh, pardon, merci. Merci, Monsieur Dumas. Monsieur Wadio, à votre tour.
Oui, mais à Québec solidaire, nous, on prône la gratuité des services de santé, des services sociaux. On veut aussi établir une gouvernance locale pour laisser les gens sur le terrain dans nos localités qui sont les mieux placés pour assurer la gestion de nos soins de santé en région. On a des petits soins de santé, mais des centres de services de santé, mais ont besoin d'être soutenus par le gouvernement, et ce sont les travailleurs de santé qui sont les mieux placés pour savoir les besoins et les priorités pour l'ensemble de notre territoire.
Merci, M. Watteau. C'est au tour maintenant de M. Lyonnais. Vous avez 60 secondes.
Pour commencer, les médecins dépanneurs. Ramener nos médecins dépanneurs qu'on avait déjà dans nos CLSC chez nous. Ça, c'est une priorité au niveau du Parti conservateur. Oui, on parle du privé, mais on parle du public aussi. On sait très bien que dans nos régions, c'est vrai que la population n'est peut-être pas faite pour avoir juste du privé, mais ça s'est fait les deux. Puis je voyais un exemple aussi, on parle de Fortierville, on parle de Nicolet, mais on peut parler au niveau de Davioville. Je voyais dans le journal avec un projet du CIUS avec Donald, et je voyais très bien les médecins privés aller là aussi avec les infirmières, avec les travailleurs sociaux qui feraient un méchant beau mix pour avancer le projet. Déjà que le bâtiment appartient à la municipalité, à des gens. On tombe dans pile avec du privé, avec en faire un bout de chemin pour offrir des services pour désengorger les hôpitaux. On n'est pas loin. Du privé, on sait qu'il y a des médecins de Fortierville qui sont rendus au privé dans le coin de Victoriaville et du coin de Québec, ils voyagent. Je pense qu'il y a une grande ouverture qu'on peut faire les deux. Là.
Merci, M. Lyonnais. On termine ce tour de table avec M. Donald Martel.
Oui, le service de santé en région, c'est tout un défi. Hein? Les médecins, ils sont beaucoup attirés vers les grands centres. On a des petits hôpitaux au CLSC et c'est extrêmement difficile de garder les médecins. Puis les médecins ont beaucoup de pouvoir par rapport à où ce qu'ils peuvent aller ou pas aller. Moi, je pense que à Fortierville, on a un défi. Je pense collectif. C'est pas juste aux députés. Je pense que c'est toute la communauté, toute la région. Il faut qu'on travaille. Je l'entends, les médecins dépanneurs, mais c'est des médecins permanents qu'on a besoin. On avait 10 médecins qui étaient attitrés au CLSC. Il y en a 5 qui sont partis. En même temps, je vous dirais pas cavalièrement, là, mais pas loin. Moi, je pense qu'il faut qu'on trouve des moyens pour restreindre les déplacements des médecins. Quand on les a à un endroit, c'est important qu'on puisse les garder. Puis là, on est dans une dynamique où il faut vraiment travailler ensemble pour recruter des médecins. J'entendais...
Merci, M. Martel. On passe maintenant à notre première période de débat de 5 minutes et on vous invite au cours de celle-ci à échanger sur la question des services de proximité et aussi à répondre à cette question de Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, on vous écoute.
Oui, croyez-vous qu'une des façons d'améliorer la qualité des services dans la région serait de séparer le CIUSSS en deux et d'avoir une organisation dédiée exclusivement au centre du Québec? La parole est à M. Lyonnais.
Aux dernières élections, le parti de la CAQ avait définitivement parlé de séparer les deux régions. Moi, je crois que non. Je pense que le privé là, peut faire un job sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud. Je pense qu'il faut travailler ensemble, comme disait un peu M. Martel. Je suis entièrement d'accord avec ce bout de chemin-là. Ça vient aussi de la communauté. Mais le privé, en faisant un bout de chemin, en avançant, je pense qu'on multiplie des étages. On est mieux de pas multiplier les étages. On est mieux de descendre l'argent à la base, aux médecins, aux infirmières, à tous les travailleurs qui peuvent aider la santé, qui faciliterait, au lieu de mettre des présidents, des vice-présidents et des directeurs généraux un peu partout, mais on économise en mettant des services à la place sur le terrain.
Monsieur Martel?
Bien, peut-être... Moi, je pense, si on vient à la séparation, c'est vrai qu'on avait promis, puis on a fait un exercice, puis je pense que ça coûtait quelque chose comme 17 ou 18 millions de plus, puis ça donnait absolument rien de plus aux citoyens. On a fait une consultation, on avait consulté les municipalités, puis je pense que ça a été une décision très réfléchie qu'on a prise ensemble, puis je pense qu'on a pris une bonne décision. Puis juste pour souffler dans ma trompette peut-être un petit peu, cette décision... Cette discussion-là a fait en sorte qu'on a attiré pas loin de 150 travailleurs du CIUSSS de la Mauricie vers le Nicolas Bécancour. Je suis très, très content de ça. Maintenant, par rapport... Mais je pense que j'ai oublié un aspect que tu avais dit, Mario. Je voulais dire deux choses.
On y reviendra. On peut laisser la parole à M. Wasso, peut-être?
Ah, si tu l'as complété.
Mais c'est parce que je l'ai échappé, mais tu m'avais interpellé sur une autre chose, Mario, je pense.
Non, mais on prend la gouvernance locale des services.
Ah oui, OK, c'est ça.
Ah, ben, j'y vais.
Oui, vas-y. On va visualiser, puis on viendra à M. Martel.
Coupe son micro. Ben, c'est ça, on prend la gouvernance locale, puis c'est parce que c'est par le respect de l'autonomie clinique, l'autogestion des équipes de travail, la collaboration interprofessionnelle dans notre secteur. Tu sais, le fleuve, c'est comme une frontière naturelle, selon moi, mais en même temps, c'est pour assurer la gouvernance locale de nos soins de santé sur le centre du Québec.
Okay. M. Dumas?
Oui, ben, je pense, il faut quand même donner à César, il y a une avancée qui a été faite dans les 4 dernières années. Il y a un directeur adjoint qui a été nommé à la région du centre du Québec. Mais par contre, c'est sûr qu'on veut continuer à décentraliser les pouvoirs. C'est sûr qu'en 4 ans, je me serais attendu à davantage pour mieux servir nos communautés de Nicolet Bécancour. Puis je pense que la preuve de Fortierville, de Nicolet et même de Saint-Léonard-d'Aston, ça nous a montré encore un certain manque de leadership dans Nicolet Bécancour pour vraiment amener... tu sais, la gouvernance locale, c'est beau de le dire, mais comment on est arrivé à des situations semblables avec des bris de services quand même importants et qui sont toujours pas rétablis, entre autres à Fortierville. Je crois que c'est beau de prendre position en campagne, mais ça aurait dû être réglé quand même bien avant, là.
Vous vouliez compléter, monsieur?
Oui, bien, c'est ça. C'est par rapport à le fait d'avoir deux CIUSSS ou juste un, ça devient moins important avec la réflexion qu'on a faite. Puis ce qu'on souhaite, c'est donner beaucoup plus de pouvoir aux établissements, aux CHSLD. On l'a vu pendant la pandémie, le fait qu'il n'y avait pas de responsable dans les CHSLD, tout le tort que ça a pu faire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je me rappelle à l'époque qu'il y avait un directeur à l'hôpital de Christ-de-Roi. Quelqu'un, c'est tout?
Non, ça va, mais je voudrais juste permettre à M. Lyonnais peut-être d'ajouter.
Oui, exactement. Quand on parle des hôpitaux aussi, ce qu'on s'en vient de la partie conservateur, c'est que la personne qui arrive là est un client et non une dépense. Qu'on voit présentement, c'est qu'il y a des budgets fixes. Et là, ce qu'on s'en vient, nous, c'est que chaque client, bien, c'est un revenu. Fait que je pense que les hôpitaux vont prendre beaucoup plus soin des gens, vont en prendre plus, ils vont opérer plus
mais ça,
facilement.
Monsieur Lyonnais, vous savez ce que ça fait concrètement dans Nicolet Bécancourt de voir le patient comme un client. C'est autant pour le public que pour le privé. Les deux, on les subventionne pour soigner les mêmes patients à la même échelle. Bien, ça va chercher le plus grand volume. On va chercher à soigner le plus grand monde le plus rapidement possible. Puis ça, c'est pas une réalité chez nous, pas du tout. Là, c'est pas réalisable chez nous de penser que ça peut être efficace.
Pourquoi ça pourrait pas être efficace?
Si on veut des services de proximité, ça va pousser tous les gens à se rassembler dans les villes parce que les établissements de santé vont
s'en sortir. Ville offre de très bons services, il peut nous dépanner facilement puis il peut offrir vraiment un bon service aussi. Là.
Le mot de la fin. Il reste quelques secondes. Monsieur Oiseau, vous vouliez peut-être ajouter?
Ben, réinverser massivement dans la prévention le rehaussement des budgets. Bon, le temps est écoulé.
Merci beaucoup. Merci à vous tous. On passe à notre prochaine question. Depuis les 25 dernières années, les sondages confirment que l'état du système de santé est la plus grande source de préoccupation des électeurs. La place du privé en santé ne fait pas l'unanimité. Certains veulent faire plus de place au privé et d'autres moins. Selon vous, quelle place doit avoir le privé dans le système de santé? Débutons ce tour de table avec Monsieur Wadzo. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant.
Oui, c'est Wadzo. Il n'y a pas de Z dans le temps. Merci beaucoup. Nous, on veut un service public universel et gratuit. On parle de proximité, on parle de prévention aussi, axé beaucoup sur la prévention. Et mieux vaut prévenir que de guérir. C'est un vieil adage, mais c'est important d'assurer que nous soyons le plus longtemps à la maison, dans un climat soutenu par la famille, avec des proches aidants, puis soutenir les proches aidants avec des mesures fiscales pour alléger leurs tâches. C'est dur d'être un proche aidant, je l'ai été moi-même, et puis c'est difficile d'être là, mais une fois soutenu par l'État... Merci. Les soins de santé, c'est notre devoir en tant que citoyen d'assurer le mieux-être de tout le monde.
On y reviendra pendant la période de débat. Mais M. Lyonnais, donc, à votre tour.
Quand je parle de privatisation, la carte soleil est toujours la bienvenue partout, hein, même au privé. Si jamais les services ne sont pas rendus au public, bien, tu vas au privé, ils vont être payés par le public. Les assurances existent déjà dans les compagnies. À peu près la moitié des compagnies au Québec offrent déjà le service privé. Déjà, c'est déjà un service. C'est pas quelque chose qu'on réinvente. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'améliorer, que tout le monde ait accès à ce service-là aussi.
Merci, M. Lyonnais. M. Martel, vous avez 30 secondes.
Oui, bien, écoutez, il faut comprendre que le privé existe déjà dans le réseau de la santé. Quand on pense aux pharmacies, il y a déjà des cliniques privées. Nous, ce qu'on pense, c'est que d'avoir des hôpitaux privés, des petits hôpitaux privés qui pourraient aider à alléger, ça peut faire partie de la solution, mais pour nous, c'est très, très clair que ça doit être payé avec la carte de l'assurance maladie. Il n'y a pas de frais engendrés pour les citoyens. C'est gratuit. C'est juste que l'administration, elle est privée.
Monsieur Dumas, conclusion.
Oui, bien, en fait, nous, on veut, avant de laisser de la place davantage aux privés, de leur ouvrir grand la porte, on veut vraiment soigner notre système de santé public qui a été mis à mal dans les dernières années. Donc, déjà, pour solutionner, on veut mettre fin à l'incorporation des médecins. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on compte ramener beaucoup plus de gens au public et de rendre plus efficaces nos soins de santé et qu'ils soient accessibles, peu importe qu'ils soient privés ou publics.
Merci. On débute une période de débat de 5 minutes avec cette question. Marie-Ève?
Ça fait des décennies que les différents gouvernements promettent que chaque Québécois aura accès à un médecin de famille. Est-ce toujours réaliste? La parole est à M. Martel.
C'est difficile. Prenez juste un médecin. Là, mes enfants, il y a un médecin qui prend sa retraite. Il a à peine 60 ans. Il y avait 2000 dossiers. Puis quand on regarde les nouveaux médecins qui arrivent, là, souvent, ça en prend 500, 600. Donc, ça prend pratiquement 3 médecins pour remplacer un médecin qui prend sa retraite. Donc, ça, c'est un enjeu. Moi, je pense qu'il faut former plus de médecins. Ça prend du temps, former des médecins. Mais il faut aussi permettre à d'autres intervenants de donner des soins. Quand on pense aux super infirmières, tantôt j'ai parlé des pharmacies. L'important, à notre avis, c'est que le patient rencontre la bonne personne, puis c'est pas nécessairement le médecin qui est toujours la bonne personne.
Monsieur Watsou?
Oui, ben c'est une situation là, qui est inquiétante pour l'ensemble du Québec et surtout ici au centre du Québec. Là, puis c'est d'assurer une collaboration professionnel, comme Donald le dit, c'est d'assurer que les super infirmières soient accessibles sous la gestion des médecins, rendre des services, décentraliser les hôpitaux, les soins de santé, pour que tout le monde ait accès à un professionnel de la santé ou un professionnel spécialisé.
Monsieur Lyonnais.
Exactement. Je suis d'accord avec vous, M. Martel, là-dessus. Vraiment, nos pharmaciens doivent avoir plus de facilité à offrir des prescriptions. Nos super infirmières aussi, on est aussi là pour rendre au moins le même nombre super infirmières qu'il y a en Ontario, ou les rejoindre au moins dans les 4 prochaines années. On a nos infirmières, on peut les former. L'Ontario a déjà beaucoup de super infirmières. Je pense qu'on doit prendre exemple sur l'Ontario. Dans le programme, c'est dans notre programme.
M. Dumas.
Je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion qui s'est installée auprès des patients. Ils ne savent pas nécessairement où aller en premier, que ce soit un groupe de médecine familiale, l'urgence, le CLC, justement. Donc, de poser la question, est-ce que chaque Québécois devrait avoir accès à un médecin? Oui, médecin de famille, oui. Mais surtout, c'est de ramener les lettres de noblesse du système public afin que ce soit clair pour le patient de savoir où aller en cas de tel besoin, donc de ramener davantage d'accessibilité puis de proximité avec le réseau de la santé et de clarté.
On peut poursuivre le débat s'il y a d'autres enjeux.
Ben, moi, j'aurais peut-être juste, Mario, c'est parce que tu as dit deux choses. Tu as dit le privé, on est d'accord avec ça. Tu as dit il peut payer avec la carte d'assurance maladie ou avec une assurance privée. Moi, ce que j'avais compris du Parti conservateur, c'est que ça prenait des assurances privées pour avoir accès aux cliniques privées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a personne qui va payer. Même si c'est le privé, on va payer avec la carte d'assurance maladie. Juste que tu éclaircisses ce point-là.
Peut-être. Exactement. Parce qu'il y a moyen d'avoir une assurance privée aussi. Ça existe, les assurances privées par les compagnies. Ça peut même payer par des communautés. Hein, des gens qui, si on donne des terrains, pourquoi qu'on ne donnerait pas une assurance santé aux gens qu'on voudrait me faire venir chez nous? Mais déjà, travailler avec les gens, la carte soleil sera toujours bonne, surtout s'il y a une attente au niveau du public. On voit présentement l'hôpital de Saint-Jérôme qui a fait pour les cataractes. On l'a vu que Iris, la compagnie Iris qui est au privé, c'est l'hôpital qui a envoyé. C'est payé par le public. La carte soleil fait effet là-dessus. C'est là-dessus qu'on veut travailler aussi.
Est-ce que tu dis, c'est que les gens, ils payent de l'impôt pour l'assurance maladie. Puis s'ils veulent aller au privé, il faudrait qu'ils payent aussi une assurance privée.
Comme il y a présentement dans bien des endroits aussi au public avec les entreprises.
Okay. M. Watsou, réagir?
Non, ben nous, c'est clair à Québec solidaire. On veut la gratuité universelle pour tous les soins de santé et que ça soit couvert par l'État.
Monsieur Dumas.
Oui, puis en ce moment, je tiendrais à souligner quand même quelque chose de très surprenant dans notre service public. Dans un même établissement, on peut vous dire, pour recevoir un acte médical, vous pouvez l'avoir dès maintenant si vous payez, par exemple, dans la prochaine semaine, ou si vous vous inscrivez à une liste publique, le même médecin peut vous le faire, mais dans 6 mois seulement. Je pense que c'est vraiment là qu'on doit travailler, de rendre notre service public réellement accessible. Puis la place au privé est venue empoisonner un peu tout ça en donnant vraiment des services plus rapidement à des gens qui sont plus fortunés. Puis d'entendre M. Martel vouloir poursuivre dans cette voie-là, en disant que ça va être gratuit pour le patient. Mais de l'autre côté, ça donne toujours l'opportunité à quelqu'un de bien nanti d'aller 2, 3, 8 fois plus vite que quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir un soin de santé qui est essentiel, qui devrait être accessible à tous.
Monsieur Martel, vous voulez réagir?
Moi, je pense que la pandémie, si elle nous a appris quelque chose, là, c'est que le réseau de la santé a besoin d'amour. Puis c'est pas en utilisant toujours les mêmes recettes, on risque d'avoir les mêmes résultats. Fait que je pense que c'est important d'amener de l'innovation par rapport à ça.
Et faciliter les gens à avoir une assurance aussi.
Merci. On passe maintenant à notre troisième question sur le thème de la santé. La population de Nicolet Bécancour est vieillissante. Actuellement, près du quart est âgé de 65 ans et plus. Comme ailleurs au Québec, la majorité des aînés formulent le souhait de rester à la maison le plus longtemps possible près de leurs proches. Ils veulent avoir accès à des services à domicile de qualité. Que préconisez-vous comme moyen pour répondre à leurs demandes et à leurs besoins? Le premier droit de parole est à M. Lyonnais. Vous avez donc 1 minute pour répondre.
Pour aider, c'est sûr que être une personne âgée et rester dans sa résidence, c'est un plus. C'est un plus aussi pour la santé, pour le système de santé. Ce qu'on veut faire, les proches aidants, on veut vraiment améliorer le système des proches aidants. On veut augmenter les dépenses des crédits d'impôt pour les proches aidants. Là-dessus, ça, c'est un mot pour nous autres. Mais aussi, offrir plus de services à domicile. Aller jusqu'à concurrence, on sait que dans les hôpitaux, ça coûte cher garder les jeunes dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On veut vraiment investir dans les fonds pour mettre des gens sur le terrain pour qu'il y ait des systèmes, des bons services à la maison.
Merci, M. Lyonnais. On passe maintenant à M. Martel.
Moi, je pense, tu sais, on peut sortir des chiffres, là. Nous, on a mis tant de montants. Je suis à peu près certain que les quatre parties qui sont représentées ici, là, on est tous d'accord à ce que nos personnes aînées vivent le plus longtemps possible dans leur résidence puis qu'on les supporte. J'ai aucun doute. Je pense que c'est un souhait pour tout le monde. Là où est-ce qu'on a une différence, puis on a été très critiqués, mais moi, je suis très fier de ça, c'est le concept des maisons des aînés. C'est vrai que ça coûte cher, mais pour nous, il y a pas de limite à ce que nos personnes, souvent c'est des personnes qui sont en fin de vie, on a vu dans les conditions épouvantables qu'ils ont vécu les dernières années. Évidemment, il y aura pas des maisons des aînés partout l'année prochaine, c'est un projet de génération, mais à mon avis, on a le devoir que chaque fois qu'on va construire une nouvelle résidence pour les aînés, que ce soit les plus belles qu'on puisse imaginer pour nos personnes, ils méritent ça.
Merci. On termine ce segment avec M. Watsou. Oh, M. Dumas, pardon.
Oui, M. Dumas. Okay. Il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est ça. On sait que la population souhaite vieillir à la maison. Et puis, une des propositions fortes du Parti québécois, en fait, c'est de terminer les maisons des aînés en construction, mais surtout de prendre tous les fonds réservés futurs, puis d'améliorer les CHSLD, pardon, et de mettre cet argent-là plutôt aussi dans le maintien à domicile. On sait que tout simplement de garder les gens à domicile avec les prévisions de vieillissement de la population, nos besoins d'infrastructures, on a aucune idée actuellement mais ça va être encore exponentiel dans 20 ans si on veut placer tous ces gens-là dans des maisons des aînés ou des CHSLD. Fait que vraiment, la clé, c'est le maintien à domicile. Et on va économiser au final énormément sur le béton pour exaucer le souhait numéro un des Québécois, c'est-à-dire de vieillir à la maison et de ne pas avoir peur de vieillir.
Merci. Et on termine le segment avec M. Watsou.
Oui. Ben, à Québec solidaire, nous, on prône la dignité des aînés, le droit de vivre dignement à la maison et avec des soins qui viennent avec les proches aidants. C'est la clé de cette démarche-là. On doit soutenir les proches aidants qui ont soin de leurs proches, mais assurer des avantages fiscaux, des crédits d'impôt, mais aussi une subvention salariale pour les proches aidants, un incitatif salarial pour s'assurer le mieux-être des aînés à la maison. On veut aussi nationaliser les CHSLD, les maisons d'aînés, pour s'assurer que ça soit uniforme et bien structuré et qu'on ne perde pas le contrôle du mieux-être de nos aînés qui sont placés dans ces établissements-là.
Merci. Et pour notre dernière période de discussion sur le thème de la santé, je passe la parole à Marie-Ève Veillette.
Les organismes communautaires qui agissent en soutien au réseau de la santé ont de plus en plus de mal à répondre à la demande de leurs usagers. Quel soutien proposez-vous à ce secteur? Le premier droit de parole va à M. Dumas.
Oui, en fait, les organismes communautaires et même plus largement l'économie solidaire, en effet, ont connu deux années particulières, mais avant ça, quand même, nécessitaient des réinvestissements importants. Au Parti québécois, ce qu'on propose, c'est de réinvestir 460 millions par année pour financer nos organismes communautaires à la mission. Et vraiment, pour avoir fait la tournée de la plupart d'entre eux, c'est ce qu'on nous a réclamé. C'est important d'alléger les redditions de comptes, d'y aller moins projet par projet, mais davantage à la mission. Puis c'est ce qu'on propose au Parti québécois.
M. Watsou?
Oui, mais à Québec solidaire, on veut investir massivement dans les organisations communautaires pour assurer une pérennité des services de leur clientèle dans chacun de leurs secteurs. C'est très important pour nous d'assurer que tout le monde puisse vivre dignement au sein de la collectivité. On est tous dans le même canot, puis on doit tous ramer dans la même direction.
M. Lyonnais?
Nous, Parti conservateur, c'est vraiment d'investir à la base, vraiment avec les organismes qui sont sur le terrain. C'est eux autres qui connaissent mieux le fonctionnement des gens proches, pas par des projets, mais vraiment par de l'argent à descendre aux gens qui sont sur le terrain pour les aider. Enlever des gens en haut, puis descendre l'argent à la base pour donner des bons services, garder nos gens chez nous.
Monsieur Martin.
Oui, c'est cocasse parce que ce midi, je rencontrais des gens qui travaillent dans le communautaire au niveau de la santé mentale. Puis la personne reconnaissait que la CAQ, dans le dernier mandat, on a fait des bons incroyables par rapport au financement des organismes communautaires. Puis je reconnaissais avec lui que c'est passé, il faut en faire encore plus. Puis pour moi, on l'a vu pendant la pandémie, le milieu communautaire qui est rattaché à la santé a un rôle extrêmement important. Puis il va falloir toujours qu'on améliore le financement de ces organisations-là.
Et pour poursuivre le débat, est-ce que c'est la chose à faire de confier au réseau communautaire des tâches qui reviendraient normalement au secteur public, Monsieur Lionel?
Je ferai un bout pour répondre à Monsieur Martel là-dessus, avoir rencontré les proches aidants, moi et Monsieur Dumas, là, à peu près trois semaines, un mois. Ils expliquaient, ils comprenaient mal comment ils descendaient de l'argent par des projets. Ils voulaient pas monter des projets. Ils disent, on n'a pas le temps de monter des projets. On a du temps pour aller avec nos gens, accompagner nos gens. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment descendre l'argent à ces gens-là pour les aider et non faire des projets. Déjà, ils en ont des projets. Ils n'ont pas besoin de monter des projets. Ils veulent vraiment pas faire de paperasse. Ils veulent vraiment mettre de l'argent sur le terrain avec leurs personnes qui aident. Ils ont vraiment ce besoin-là.
Est-ce que des projets qu'ils ont présentés, ils ont été refusés?
Non, c'est qu'ils ne veulent pas perdre de temps à monter des projets, M. Martel, Donald.
Mais c'est là-dessus. Parce qu'il y a toujours une reddition de compte. Quand on donne des sous, c'est important qu'on sache à quoi que ça va servir. Moi, je pense qu'il y a moyen d'alléger, tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir, quand on dépense de l'argent de l'État, où est-ce que ça s'en va, là?
Mais quand on donne l'argent à des gens, on sait qu'est-ce qu'ils font comme ouvrage. On sait qu'ils sont là pour aider leurs proches. On n'a pas besoin de monter de projet là-dessus, là. On sait le temps qu'ils mettent et on juste à faire des redditions de comptes pour des heures, pas besoin de monter de projet, là. Ils sont déjà en train d'aider les gens, là.
Monsieur Voiture, est-ce que, je reviens à ma question, est-ce qu'on met un trop gros fardeau sur les gens du secteur communautaire, qu'on leur confie des tâches qui devraient appartenir au public?
C'est avec un bon soutien de ces organisations communautaires-là, parce qu'on a tous à cœur le mieux-être de notre mission respective dans chacune de nos organisations communautaires, mais c'est d'assurer un soutien d'en haut en bas et d'en bas en haut.
Monsieur Dumas?
Oui, bien, en fait, je pense que je vais me positionner quasiment comme médiateur entre M. Martel et M. Lionel. Je crois que la reddition de compte est importante, absolument. Notre secteur communautaire, c'est ce qu'il y a à faire, mais quelque part, nous, on doit s'assurer que l'argent des taxes et impôts de tout le monde est bien investi. Puis au Parti québécois, le Parti québécois prône cette confiance-là tout en demandant de la reddition. Mais par contre, avec la pandémie, on dirait que ça a pris la pandémie pour débloquer autant de fonds. Moi aussi, je l'ai entendu sur le milieu comme... Ah, c'est drôle, la semaine après notre confinement, les chèques arrivaient et on s'est rendu compte au gouvernement de la CAQ à quel point le communautaire était important. Et c'est ça devrait pas prendre ça pour contribuer puis reconnaître le travail que font le milieu communautaire.
Sais-tu quoi, Philippe? T'as raison. C'est vrai que la pandémie nous a appris un paquet d'affaires. Puis moi, ça fait longtemps que je travaille avec les organismes communautaires. On était beaucoup... a dit que c'est important de les soutenir. Ils ont montré leur utilité, puis je suis très fier qu'on les ait soutenus.
Quelqu'un veut conclure, M. Boisseau, M. Lyonnais?
Moi, ça me va. Moi, regarde la rédition de compte, je suis d'accord avec le temps des gens qui font, là, pas avec des projets à monter. Là.
M. Boisseau?
C'est soutenir le communautaire.
Merci. Donc, merci à vous quatre. On passe maintenant au second thème de la soirée, qui est l'emploi. Voici donc la première question. Cela a fait grand bruit pendant la présente campagne électorale. Vos chefs divergent d'opinion sur les seuils d'immigration et sur la capacité du Québec d'accueillir, d'intégrer et de franciser des immigrants qui pourraient faire partie de la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Selon vous, quel devrait être le nombre de nouveaux arrivants que le Québec devrait accueillir à chaque année et pourquoi ce chiffre? La question s'adresse d'abord, dans un premier temps, à M. Martel. Vous avez 30 secondes.
50 000.
Et pourquoi?
Parce que de nier la pénurie d'emploi, je pense que c'est un peu utopique. Mais on est responsable de protéger la langue française. C'est important d'être limité dans le nombre pour s'assurer de bien les intégrer. On a eu l'expérience passée. On a commencé par 40 000. On pense qu'à 50 000, pour le moment, c'est suffisant. Il faut s'assurer de bien les intégrer surtout.
Monsieur Dumas, à votre tour.
35 000. Non, mais en fait, ce qu'on prend au Parti québécois, c'est vraiment... Oui, l'immigration peut rapidement apparaître une solution aux problématiques de main-d'œuvre, mais ça amène aussi d'autres besoins en main-d'œuvre, de francisation, d'accompagnement, en accueil et intégration. Puis, pour moi, je pense, puis pour en avoir parlé aussi avec le milieu, arrêtons de voir nos immigrants comme de la main-d'œuvre. Je pense que c'est des gens d'abord qui viennent ici pour la qualité de vie, pour des opportunités, et on a le devoir de bien les accueillir. Puis, c'est pour ça qu'on veut ramener à 2003.
C'est maintenant au tour de M. Watsou.
Oui, ben nous, à Québec solidaire, on sort-tu les chiffres? Là? Besoin de savoir combien de personnes. Ben, l'immigration est importante.
70 000.
Ben, c'est important, l'immigration au sein... pour le centre du Québec, on a cette fameuse pénurie de main-d'œuvre, mais il faut aussi avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir les nouveaux arrivants, à s'assurer qu'ils vivent dignement, tout comme nous, au sein de la société. Ça va faciliter leur intégrité si on est une terre d'accueil.
Et on termine avec M. Lyonnais.
Le nombre, j'ai pas un nombre exact à faire, mais pour faire l'accueil des migrants, je l'ai fait depuis le début. J'ai fait le programme du pays. Et je sais que l'importance de bien le faire dans nos milieux. Mettre un nombre, je pense que ce serait chiffrer quelque chose que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre sur le terrain. Moi, pour l'avoir fait avec la municipalité de Forteville, on a développé des projets. On a pris le temps de les accueillir, on prend le temps de les intégrer. Et ces gens-là, comme disait Philippe, c'est pas juste des immigrants pour travailler, c'est des gens qui font virer l'économie chez nous, qui sont chez nous pour vivre longtemps, puis s'établir chez nous. Quand ils viennent chez nous, c'est pas juste pour travailler, c'est pour leurs enfants. C'est important de bien les accueillir.
Merci. On passe maintenant au débat de 5 minutes. Marie-Ève?
Oui, ça va être Monsieur Watsou qui va commencer. Plusieurs entreprises doivent se tourner vers l'immigration pour combler leurs postes vacants. Comment le gouvernement peut s'impliquer pour favoriser leur rétention et leur intégration dans la région?
Ben, oui, une particularité de notre région, c'est que le territoire de Nicolet-Bécancour est un territoire qui est vaste, peuplé de plusieurs municipalités et villages. Et l'espace est pour le développement domiciliaire est un enjeu pour les deux MRC, s'assurer d'avoir des terres pour développer, pour accueillir ces gens-là, avoir des infrastructures. Ça prend des places en CPE, ça prend des places dans notre système de santé, dans nos écoles. Il faut que tout ce beau monde-là, le gouvernement, les MRC, les maires et la population travaillent tous ensemble pour accueillir ces gens-là pour qu'on puisse continuer à développer nos communautés.
Monsieur Lyonnais.
Développer l'immigration, c'est une chose, mais comment on le fait pour les accueillir? Je vois au niveau agricole, on voit très bien la paperasse qu'ils ont envie. Il faut réduire la paperasse, il faut simplifier la paperasse aux producteurs, il faut que ça aille plus rapidement. On a besoin d'une main-d'œuvre agricole, entre autres, et des familles qui viennent s'établir. Souvent, les gens qui sont ici, ils viennent travailler, mais ils aimeraient ramener leur famille. C'est très compliqué. On leur met des dédales administratifs incroyables. On ne peut pas le faire. Il faut vraiment que leur famille puisse venir s'établir, qu'ils peuvent résider chez nous et avoir une main-d'œuvre qui s'établit à long terme. Là.
Monsieur Dumas?
Oui, ben là-dessus, obligatoire de parler de souveraineté, parce que quand on contrôle pas tous nos leviers en immigration, ben on dépend vraiment du Canada là-dessus. Puis le boulot qu'il y a à faire, c'est que les gens aient le goût de s'installer chez nous d'abord, qu'ils arrivent ici chez nous, pas qu'il y ait une période de transition en ville, par exemple, parce que eux ont la rétention dans les milieux urbains. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir une attractivité, une promotion à l'extérieur du Québec et de ramener tous nos leviers dans nos délégations générales un peu partout à travers le monde et dans la francophonie.
Monsieur Martin?
Oui, vous parliez de garder les immigrants en région. Puis je pense que c'est notre grand défi. On peut être attirant, mais comment qu'on fait pour les garder? Puis je pense que le gouvernement, il peut soutenir des initiatives, mais je pense pas qu'on peut adopter des lois ou des règlements pour forcer les gens à rester en région. Moi, j'aime beaucoup, Marion a fait allusion tantôt, l'initiative de PAIS. Au pays. C'est une organisation, ça a été fait avec Manceau, Sainte-Françoise, puis je pense que c'est Paris-Ville.
C'est Forteville.
Forteville. Ils ont vraiment développé un beau modèle en région, en milieu rural, pour garder les immigrants, aller en chercher, puis les garder ici, puis les franciser. Et moi, je suis très content d'avoir convaincu Simon-Jolin Barrette, à l'époque qui était à l'immigration, de soutenir financièrement cet organisme-là. Moi, je disais à Simon, c'est un bel exemple d'organisation pour le milieu rural, pour bien intégrer nos immigrants. Donc, il y a une partie de l'État qu'on doit soutenir financièrement, mais je pense que c'est un défi collectif là, pour être capable de garder nos immigrants.
Je m'offrirai peut-être encore l'opportunité à M. Wasso de s'exprimer sur l'immigration.
C'est anecdote, là. Ça fait 400 ans qu'on fait de l'immigration. le but, c'est d'être accueillant et respectif des gens.
Monsieur Lyonnais.
Oui, j'irais aussi les droits de scolarité de ces gens-là. Ils arrivent avec des diplômes. C'est prendre du temps avec qu'ils soient acquis, là. On parle de médecins. Tout à l'heure, on disait qu'on manquait de médecins. Il faut faciliter la vie à ces gens-là pour que leur diplôme soit accrédité le plus rapidement possible. C'est de même qu'on augmente les gens. On parlait d'infirmières. La même chose. Accréditer leur scolarité qu'on ne fait pas. Il y a toutes sortes d'étapes. On peut-tu aller plus rapidement? Oui, on peut aller plus rapidement. Puis le Parti conservateur veut le faire. Accréditer ces gens-là pour qu'ils puissent travailler rapidement.
Je vais aller un peu plus loin avec quelque chose de très concret pour Nicole Bécancourt. Sans doute qu'on en parlera aussi plus tard. La filière de la batterie va emmener une pression énorme sur la main-d'œuvre, puis nécessairement, on va se tourner vers l'immigration intérieure, mais aussi l'immigration extérieure. Puis, il y a actuellement beaucoup de freins à toute personne devant s'installer dans notre région. Et les garderies, les écoles en font partie. Et au Parti québécois, on reconnaît que chacune des régions ont leurs spécificités. Puis, c'est pour ça qu'on mettrait en place le ministère du Développement régional. C'est évident qu'à Nicolet Bécancourt, tout le Québec va être tourné vers nous dans les prochaines années pour voir comment on va se développer. Puis ça nous prend un État pour nous accompagner là-dedans. Oui, on peut dire que la base est là, mais c'est assez exceptionnel ce qui va se passer chez nous. Puis pour bien accueillir toute cette nouvelle population-là, bien, c'est avec un État fort qu'on va pouvoir aider nos municipalités à pas juste réagir, mais à proposer des milieux de vie intéressants pour toutes ces personnes immigrantes-là.
Il nous reste 15 secondes. Quelqu'un veut ajouter?
Bien, je pourrais répondre que les milieux de vie sont assez bien adaptés. Je reviens avec les acquis scolaires qui devraient seraient un plus, qui soient acceptés le plus rapidement possible.
Merci. Merci à vous tous. Donc, allons-y d'une nouvelle question sur l'emploi. Vous aurez une minute pour y répondre à tour de rôle. Donc, Bécancourt sera au cœur de la stratégie de la filière batterie et verra l'implantation de plusieurs usines en lien avec l'électrification des transports. Ces entreprises auront besoin d'employés qualifiés et spécialisés. Quels sont vos plans pour combler ces besoins en main-d'œuvre? La parole est d'abord à M. Dumas. Vous avez une minute.
Le plus gros défi, sans doute, des prochaines années, n'en remettre uniquement à l'organisation des municipalités, des MRC. On voit en ce moment, ils sont en train de prendre le leadership là-dedans, mais ils ont besoin d'accompagnement. Il y a une des demandes qui a été faite d'ailleurs par la table des MRC, qui est d'octroyer un fonds régional spécial, et le Parti québécois a pris position là-dessus. Oui. On veut aider notre région à accueillir tous ces nouvelles industries-là par au-delà de la main-d'œuvre qu'on vient de discuter, mais également dans tous les services connexes.
C'est maintenant au tour de M. Wasso.
Oui, nous, à Québec solidaire, on en a parlé juste avant, là, sur l'immigration, c'est d'accueillir des nouveaux arrivants et s'assurer qu'ils soient bien accueillis au sein de notre société, mais aussi pour les gens qui travaillent dans les industries polluantes, s'assurer qu'ils puissent transformer leur métier pour être adapté aux industries plus vertes, dont l'industrie du lithium qui s'en vient s'installer dans le parc portuaire.
Monsieur Lyonnais, à votre tour, vous avez 60 secondes.
Pour les municipalités, c'est un défi, là, parce que déjà, si vous passez dans nos municipalités, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre, pas beaucoup d'endroits qu'on peut garder ces gens-là. Si on veut développer, il va falloir ouvrir nos zones blanches pour développer, pour mettre des résidences et aussi aider que le ministère de l'Environnement nous donne un petit coup de main là-dedans parce que c'est compliqué, là. Je parlais aux gens de Baie-du-Five, c'est un petit peu compliqué pour agrandir leur périmètre urbain puis développer. C'est que si on veut accueillir des travailleurs qui viennent dans nos industries à grandeur de notre territoire, bien, il faut faciliter la vie aux municipalités qui peuvent donner des endroits pour qu'ils peuvent construire et résider.
Et on conclut avec M. Martel.
C'est l'heure de se vanter, là. Je suis très, très content du développement de la filière batterie. J'ai travaillé très fort pour ça. Mais c'est un défi vraiment important. Moi, si je suis réélu, un des défis que je veux me donner, c'est de piloter un comité avec des maires, avec des entrepreneurs pour faire en sorte que on puisse développer une stratégie pour aller chercher des travailleurs à l'extérieur. Je parle souvent des maritimes. Vous vous rappelez, là, pendant que c'était le temps du pétrole, il y a beaucoup de Québécois qui sont partis dans l'Ouest. Moi, je voudrais qu'on fasse un peu l'inverse. Je voudrais aussi qu'avec ces leaders-là, on travaille avec les CLD pour s'assurer que, parce qu'on a un défi d'avoir des employés dans le parc industriel, mais on a un défi aussi de garder les emplois dans nos petites PME. Puis je pense qu'il va falloir qu'on travaille avec les CLD pour changer un peu notre mission, pour faire en sorte que on doit travailler avec les entreprises pour moderniser les opérations pour que ça prenne le moins d'employés possible.
On termine ce thème avec un débat de 5 minutes. Marie-Ève?
Oui. Plusieurs de ces nouvelles usines offriront des salaires et des avantages intéressants. La situation inquiète les propriétaires de PME. Ils craignent de ne plus pouvoir être compétitifs et de voir leurs employés quitter pour ces usines. De quelle façon prévoyez-vous soutenir les entrepreneurs du territoire? On débute cette discussion avec M. Lyonnais.
Et c'est exactement, je le vis, là, pour avoir fait des entreprises, c'est ainsi. Je fais beaucoup de porte-à-porte avec les entreprises et vraiment, c'est une crainte. Déjà, il y a un manque de main-d'œuvre pour commencer. Et deuxièmement, ils vont avoir des rivaux salariales qui s'en viennent assez abominables là-dessus, qui vont avoir des bons salaires. Et ils se demandent comment on va faire. Comme disait Donald, il faut travailler ensemble, un. Mais deux, il faut voir aussi dans le parc qu'est-ce qui s'en vient. Là. Il y a 50% des gens qui s'en vont à la retraite aussi. Là, on parle de ces nouvelles entreprises qui s'en viennent. Là. Mais dans l'ABI, là, il y a 50% des gens qui s'en vont à la retraite là, d'ici 2 ans à 3 ans. Là. Ça fait 25 ans qu'ils sont là. Faut pas oublier ça. Là. On a tout un travail à faire pour garder ces gens-là ici, pour garder nos petites entreprises dans nos municipalités, parce que dans nos cœurs de village, là, nos entreprises sont importantes. Je sais pas ça va être quoi exactement la solution pour garder nos entreprises vivantes dans nos municipalités, mais c'est primordial de garder nos entreprises vivantes dans nos municipalités en partant aussi. Là.
Monsieur Watteau, sur l'enjeu des salaires et des PME.
Oui, ben nous, à Québec solidaire, on veut augmenter le salaire minimum à 18 $, accompagné d'une aide financière aux PME, justement, pour combler le déficit, pour assurer la transition. Et on veut... Oui, c'est ça. Excusez-moi.
Monsieur Dumas,
oui. Je peux y aller, oui. Je le répète depuis tout à l'heure, là, c'est assez exceptionnel ce qui s'en vient. Puis je vais citer Donald. On peut, c'est le moment de se vanter. Le fonds de diversification économique qui a été mis en place par le Parti québécois a trouvé tous ses clients, je vais les appeler comme ça, mais toutes ses entreprises. Et ça a été en réponse à une situation exceptionnelle. Dans ce cas-ci, il faut reconnaître que ce qui s'en vient doit avoir le support tel que de l'État. Puis je pense que c'est une partie de la solution d'aider nos entreprises à augmenter leur compétitivité. Puis je pense avec des sujets d'avenir comme l'économie circulaire, la réutilisation de l'énergie, des usines, de s'assurer que chacune de ces usines-là qui soient installées dans le parc, on mette en place des moyens de réutiliser leurs extrants dans nos intrants. Bref, c'est sûr que c'est un enjeu de compétitivité. Puis si on accompagne comme il faut les PME pour gagner en compétitivité, ils vont être en mesure de donner des meilleurs salaires, assurément.
M. Martin, c'est une préoccupation?
J'en ai parlé un petit peu tantôt, puis hier, j'avais une discussion justement avec des entrepreneurs qui vivent cette situation-là, puis je disais, ouais, mais je comprends, mais pensez-vous qu'on devrait refuser de recevoir cette filière batterie-là avec tout ce qui s'en vient? Il n'y a personne. Tout le monde, je pense, se réjouit, mais le défi n'est pas moins grand. Puis moi, je me rappelle que quand on a créé les CLD, j'étais à la direction du CLD de Nicolas Yamaska, puis notre mission, puis j'en ai parlé un petit peu tantôt, notre mission, c'était de créer des emplois, parce que on était à 12% de taux de chômage à l'époque. C'était de créer des emplois, c'était d'aider des entreprises à partir. Moi, je pense que, puis on va réfléchir, tout le monde, mais je pense qu'il faut adapter les services des CLD pour faire en sorte de travailler directement avec les entrepreneurs pour voir de quelle façon on peut moderniser nos entreprises manufacturières surtout.
M. Watteau, vous voulez poursuivre le débat sur cet enjeu?
Sur la fiscalité.
Sur les PME et les salaires qui deviennent peut-être difficiles à rivaliser avec les grandes entreprises.
Mais c'est un enjeu. C'est sûr qu'ils ont besoin de soutien de la part de l'État, avec un gouvernement de Québec solidaire hier dans leur plan fiscal, c'est d'assurer un soutien aux PME tout en augmentant le salaire minimum pour que tout le monde ait un salaire convenable et de vivre dignement.
M. Lyonnais?
Je reviens aux résidences. Je ne sais pas qu'on va loger tous ces gens-là aussi. Il va falloir développer des logements, il va falloir développer des résidences. Puis voir aussi, ça va faire monter les coûts des maisons. Les gens qui sont déjà sur... Là, ils vont avoir de la misère. Nos jeunes vont avoir de la misère à acheter des maisons, là, des résidences à garder. Les personnes âgées vont avoir de la misère à garder leur résidence parce que les coûts vont être trop élevés pour leur maison. On a toute une problématique là avec un beau problème qui est les industries, mais c'est tout sensu autour de ça. Ça fait une roue qui est vraiment difficile à s'adapter. Il va falloir y aller par étapes. T'sais, je pense qu'ils vont arriver un après l'autre. Ils n'arrivent pas tous en même temps, les entreprises, Donald, je pense. Mais on a tout un défi. Puis je pense qu'il faut le faire ensemble. Autant le Parti conservateur va le faire que peu importe. Là, on est d'accord là-dessus. On ne s'assinera pas. Mais
c'est un bon point, Mario.
On a beaucoup de choses à voir, là, à vivre.
Je pense qu'on a 3 ans. Honnêtement, là, avant que les premiers emplois manufacturier soit en opération, on a un bon 3 ans, puis c'est exactement ce que je disais hier. Fait que je pense que on est capable, puis il faut pas voir ça comme un problème, faut voir ça comme une opportunité, puis je fais beaucoup confiance aux gens ici pour qu'on trouve des solutions.
Le mot de la fin, M. Dumas?
Oui, ben en fait, je pense que c'est l'occasion d'être exemplaire dans ce développement-là, puis de veux pas, Nicolet Bécancourt, on a tout pour être un paradis de la famille. Et il faut mettre les choses en place. Et bon, je vois le temps que c'est cool. Mais dans le fond, si on a suffisamment de main-d'œuvre en se positionnant comme tel au Québec, je crois qu'on va pouvoir surmonter ces défis-là.
Merci à vous tous. Cela conclut donc la portion du débat consacrée à l'emploi. Voici notre 3e thème, l'économie. Et pour amorcer ce segment, une première question. L'inflation est galopante. La hausse de l'indice des prêts de consommation se chiffrait en août à 7,1% au Québec. Vos partis préconisent plusieurs solutions différentes, baisse d'impôts, chèques aux contribuables et aides ciblées aux plus démunis. En quoi la solution proposée par votre parti est la meilleure? La question d'abord s'adresse dans un premier temps à M. Watso. Vous avez 30 secondes.
Oui, nous, à Québec solidaire, on va assurer la meilleure répartition des richesses et le mettre au service du bien commun. Le Québec est une province qui est riche en ressources naturelles, et il doit y avoir une juste redistribution de la richesse d'en haut en bas et s'assurer que tout le monde ait sa part du gâteau pour qu'on puisse vivre pleinement et s'épanouir pleinement au sein de la société québécoise.
Monsieur Lyonnais, à votre tour.
Réduire les impôts. Augmenter l'exemption personnelle de base d'impôts des particuliers qui est à 15 728, le ramener à 20 000. Déjà là, ça fait un peu plus d'argent dans les poches, moins d'imposition. Après le premier, 46 295, de 15 % à 13 % 2 % De 46 295 à 92 580, de 20 % à 18 % Donner de l'argent dans les poches des contribuables qui peuvent dépenser pour faire virer l'économie, c'est même qu'on voit ça pour développer l'économie chez nous.
C'est maintenant au tour de M. Martel.
Dans un premier temps, l'inflation qu'on vit actuellement, c'est vraiment un problème. Puis moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui tirent le lièvre par la queue, comme on dit. Juste avant de venir ici, là, je passais à l'épicerie, un livre de beurre, 7 piastres. C'est pas de la fiction, c'est vraiment important ce qu'on vit actuellement. Moi, je pense que c'est la plus grosse inflation, j'ai 58 ans, là, que moi j'ai connue. Là. Nous, on a quatre choses. Premièrement, c'est de remettre des chèques de 400 à... Oh, j'ai juste une minute.
On y reviendra dans le débat, M. Martel. M. Dumas, en conclusion.
Oui, nous, l'inflation, premier point, c'est pas le temps d'affaiblir l'État parce qu'on est devant l'inconnu actuellement, puis on peut pas se permettre de diminuer le pouvoir d'action. Et au Parti québécois, on a décidé d'agir auprès des gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire de faire une échelle des remises anti-inflationnistes. Mais surtout, par rapport à mon implication dans Nicolas Bécancourt, j'ai vu la pauvreté a changé de visage. On parle de la nouvelle pauvreté, puis on voit que c'est pas en envoyant des chèques qu'on va réellement aider, mais surtout en accompagnement tout au long de l'année.
Merci. On passe maintenant au débat de 5 minutes. La parole est d'abord à M. Martel. En plus de débattre d'inflation, on vous invite aussi à répondre à cette question de Marie-Ève Veillette du Courrier Sud.
De plus en plus de gens craignent de ne plus pouvoir payer leur loyer et leur épicerie. Est-ce qu'une hausse significative du salaire minimum est la solution pour réduire la pauvreté?
M. Martel.
Moi, je pense que, rappelez-vous l'élection, bien, il y a juste moi qui étais là, mais l'élection de 2018, on parlait du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Puis c'était un enjeu, puis je me souviens que Québec solidaire faisait cette promesse-là. Moi, je pense que les gens gagnent au moins 18 $ de l'heure, tout le monde va être d'accord avec ça. Mais je pense que le marché nous amène là de toute façon. Je voudrais pas être obligé d'imposer des gens. Il y a peut-être des commerces qui sont plus difficiles, puis d'aller leur imposer un salaire minimum trop élevé. J'aurais peur du choc que ça peut provoquer. Mais je pense que naturellement, puis sincèrement, je pense que même dans la région, on va être beaucoup plus que 18 $ de l'heure à beaucoup, beaucoup d'endroits.
Monsieur Watso.
Oui, effectivement. Fait qu'on va commencer demain le 18 $ de l'heure. Merci beaucoup, monsieur le député. Mais nous, c'est justement ça. C'est le message qu'on martèle à Québec solidaire. C'est l'augmentation immédiate.
Martel,
Pardon?
Martel, c'est pas moi, ça.
Non.
Non.
Non, excuse-moi. L'augmentation du salaire minimum à 18 $ accompagnée d'une aide encore au PME pour s'assurer la pérennité.
Monsieur Lyonnais.
Vous savez, Donald, je donne raison sur certaines augmentations. Si on monte le salaire minimum à 18 $, ça va faire mal à des petites entreprises qui peuvent pas se payer ça. Je pense qu'il faut voir d'autres façons de les aider là, par des biais. On sait qu'en imposant, en donnant moins d'impositions, il va y avoir plus d'argent dans les poches, les gens vont pouvoir plus dépenser pour avancer. Si on va faire une économie circulaire, on parlait d'économie circulaire tout à l'heure, ça n'est une économie circulaire en mettant de l'argent dans les poches. Et la pauvreté, je les vois là chez les enfants. L'année passée, là, je peux vous dire que les jeunes dans les boîtes à lunch, sur la fin de l'année, il y avait beaucoup de saucisses à deuil avec rien. Et dans un monde industrialisé et riche qu'on est, on a un problème. Nos jeunes ont de la misère à manger. Je disais, Donald, une livre de beurre à 7 $, il n'y a pas grand monde qui se le paye s'ils n'ont pas des bons salaires. Je pense qu'il faut voir avec les entreprises comment on fait pour aider. Mais on ne peut pas imposer un salaire minimum là, rapidement demain parce qu'on va avoir un flash quelque part, là, il va y avoir quelque chose qui va cracher.
Monsieur Dumas?
Oui, je peux peut-être préciser, l'économie circulaire, non, donner de l'argent n'est pas de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quand le déchet de l'un devient l'intrant de l'autre. Je tiens à préciser, là, avec la mise en situation qu'on avait avec l'alimentation, on peut se concentrer sur le salaire minimum, sur à quel taux il devrait être, mais je pense qu'on n'a pas le choix de penser à l'extérieur de la boîte à ce stade-ci. L'alimentation en est un bon exemple. Parlons d'autonomie alimentaire, parlons d'accompagnement au circuit court carrément. Ça a un impact direct sur le prix des aliments. Le salaire minimum à 18 $, oui, le Parti québécois, on est d'accord de l'atteindre d'ici 3 ans. Mais pour réellement donner plus de pouvoir d'achat aux gens, ben il faudrait peut-être aussi regarder son efficacité. Une autre mesure que j'ai avancée pendant la campagne, avant de penser à baisser des taxes ou des impôts, c'est quoi la plus grande dépenses des ménages actuellement après le logement, c'est l'automobile. Bien, est-ce qu'on peut aider nos familles à se passer d'un automobile en mettant, par exemple, plus d'autopartage, dans nos Merci. Milieux? Et c'est réaliste, c'est une solution tout à fait logique.
Je laisserai la parole à nouveau à M. Wasso sur l'inflation. Vous avez parlé de salaire minimum, mais sur l'inflation générale, les solutions que vous préconisez, vous et Québec solidaire?
C'est d'instaurer le programme Fabriquer au Québec, l'approvisionnement local dans le secteur public, s'assurer qu'il y ait le circuit court en agriculture, pour s'assurer que les biens restent dans la région, puis assurer une autonomie régionale, puis la mise en place d'instances régionales de gouvernance pour s'assurer...
Monsieur Lyonnais,
le maintien. Je vais faire un bout de chemin avec le circuit court. Je pense que vraiment, pour une économie, il faut vraiment avoir un circuit court d'alimentation. J'ai une ferme, je sais de quoi que je parle. Si on peut alimenter nos gens proches, on sauve beaucoup d'argent. Au moins, les gens peuvent réduire nos coûts à vendre nos produits moins chers un peu pour les gens qui sont proches. S'ils pourraient avoir plus de détails de même de fait, bien, je pense que ça serait un plus pour l'alimentation. Au moins que les gens peuvent bien s'alimenter avec des aliments proches.
Oui, mais par rapport à l'inflation, là, moi, je pense que ceux qui peuvent souffrir le plus par rapport à l'inflation, c'est les personnes âgées qui peuvent plus travailler, qui ont des revenus très, très modestes. Nous, on donne un crédit d'impôt de 2 000 $, puis je pense que c'est fondamental. Il faut penser particulièrement à eux autres parce que ils ont pas de moyens. Il faut qu'ils vivent avec leur salaire maigre, puis souvent, il n'y a pas d'augmentation. Donc, les aînés sont frappés très solidement par l'inflation.
18 secondes, quelqu'un veut ajouter au débat?
Bien, je pourrais rajouter avec nos personnes âgées qui peuvent travailler encore de 60 à 64 ans. Bien, on a un crédit d'impôt qui part de 1 500 à 3 000 $. Puis de 65 ans et plus, on sait que nos personnes âgées sont encore en forme. Ils peuvent faire un bout. Bien, on part de 1 650 à 5 000 pour un crédit d'impôt.
Merci. Merci à vous tous. Voici donc une seconde question. Maintenant que la question de l'Internet à haute vitesse est en grande partie réglée, le monde municipal réclame des actions pour accroître la couverture cellulaire. Le signal est encore faible ou absent dans plusieurs secteurs. La situation freine le développement économique des communautés et pose des obstacles aux travailleurs, entreprises et organisations. Quelles mesures concrètes votre parti prévoit-il adopter pour régler la situation dans un avenir approché? La question s'adresse dans un premier temps à M. Lyonnais. Vous avez 60 secondes à partir de maintenant.
Drôle le sujet parce que au niveau du Centre du Québec, on a eu la chance de faire le portrait de où qui sont les trous qu'on appelle au niveau du cellulaire. On a pris l'avance, puis même à la MRC de Bécancour où je suis préfet, on a même devancé, on a les coûts à jour de fait de ce printemps. Nous, le Parti conservateur, on s'engage pour un projet pilote au Centre du Québec à développer la cellulaire partout là, sur le territoire du centre du Québec, avec des élus qui ont pris de l'avance, qui ont fait un bout de chemin en faisant le portrait qu'on a. Notre problématique, c'est de voir avec quelle entreprise privée, parce qu'on sait que le privé doit être présent. C'est pas un MRC ou c'est pas un centre du Québec qui va donner des ondes cellulaires, mais vraiment une entreprise. On l'a vécu avec la fibre optique dans les MRC de Bécancour. On a quelqu'un qui veut la main, ben faut voir qui peut lever la main. Après ça, on est prêt à faire le projet pilote, à aller de l'avant là-dessus.
Monsieur Martel, à votre tour.
Je vais être obligé de me vanter encore. Je suis désolé, mais on avait promis la fibre optique sur toutes les résidences. C'est une promesse qu'on a réalisée. Et je pense qu'on a la crédibilité parce que je l'ai entendu souvent, on va brancher tout le monde, ça s'est pas fait. Nous, on l'a promis, on l'a fait. Et là, on s'engage à donner une couverture cellulaire partout sur le territoire habité. Évidemment, on parle pas de ceux qui ont un campement à Matawin ou des choses comme ça, mais par où est-ce que les routes, le numéroté, les 100, les 200, on s'engage à couvrir le territoire dans son ensemble.
C'est au tour de M. Dumas. Vous avez 60 secondes.
Bien, je crois que la plus belle avancée qu'on pourrait faire concrètement, c'est d'aller rapatrier nos pouvoirs en télécommunication. Ceux qui ont réellement les leviers en ce moment pour forcer les responsables de la télécommunication, c'est le CRTC. Et dans ce cas-ci, je salue le leadership du côté de la MRC de Bécancour, mais c'est pas aux municipalités et à la MRC d'investir pour connecter les maisons. Là, on l'a fait dans un souci d'urgence, je suis d'accord. Puis, je trouverais ça malheureux d'arriver encore avec le souci de connectivité cellulaire, que ce soit des argents des municipalités qui soient utilisés pour améliorer la connexion cellulaire des gens. C'est vraiment la tâche du Conseil de radio-télédiffusion. Puis, dans notre cas, ben, on va chercher ces pouvoirs-là pour pouvoir s'assurer de la couverture partout en région.
Et on termine ce tour de table avec M. Watsou.
Oui, on voulait mettre le numérique au service du bien commun. On voulait développer la faisabilité de voir, c'est d'instaurer le système Réseau Québec, puis s'assurer d'avoir le plein contrôle de nos télécommunications au Québec, puis d'assurer une accessibilité cellulaire à moindre coût pour chaque concitoyen de la MRC, de la circonscription. Désolé.
Merci. On passe maintenant à une autre période de débat de 5 minutes, toujours sur le thème de la couverture cellulaire. Marie-Ève?
Oui. La table des MRC du Centre du Québec souhaite que la région devienne la première à avoir une couverture cellulaire complète. Que répondez-vous à cette demande des élus municipaux? Monsieur Dumas.
Notre région, oui. Région pilote, ben pourquoi pas toutes les régions qui en ont besoin. Je crois qu'on est vraiment en 2022, puis c'est pas un besoin qui est plus urgent ici qu'ailleurs. Non, elle est urgente partout. Donc oui, on garantit qu'on va le mettre en œuvre rapidement, mais au niveau du projet pilote, le faire rentrer, non, on est rendu là. On est absolument rendu là. Donc ça, c'est la réponse qu'on rend à la table des MRC. Oui, la couverture cellulaire en priorité, mais partout.
Monsieur Lyonnais?
Ben, j'avais répondu pas mal avec oui, on était en faveur, on était pour le projet pilote. Déjà qu'on avait pris les avancements pour la couverture, on savait où mettre les tours, on sait déjà les coûts, et qu'on est très en faveur d'un projet pilote là, pour le Centre du Québec. Là-dessus, est-ce qu'on peut répondre un petit peu? Je voulais répondre à M. Dumas tout à l'heure, il nous a parlé de la fibre optique, c'était pas à une municipalité ou à un MRC de le faire. Je pense qu'on a pris les devants là-dessus, puis on a fait la crise, la pandémie, là, on était chanceux, on avait la fibre optique avant les autres, et c'était vraiment un plus. Et on n'a pas, je pense que c'est une belle économie que la MRC a, et les municipalités ont pris une richesse, une valeur incroyable. Je suis assez fier d'avoir fait ce projet-là, d'avoir développé. C'est une valeur, c'est une plus ajoutée à une MRC, c'est des revenus qui reviennent à une MRC. On se demande des fois comment on fait des revenus. On dit, on doit tout le temps envoyé à l'extérieur, au gouvernement. Des fois, les municipalités, les MRC sont capables de faire de l'argent puis avancer aussi avec des projets. Là.
Non, je suis d'accord. Le projet est excellent, mais l'État, en fait, le Québec aurait dû plus vous appuyer là-dedans. Là. C'est mon point là-dedans.
Ce que je veux dire, c'est qu'on le fait puis on n'a pas attendu après l'État. Des fois, il ne faut pas attendre toujours après l'État. Il faut avancer puis aller de l'avant. Là.
Monsieur Martel?
Oui, bien, Philippe, il soulève un bon point parce que c'est vrai qu'il y a une question de réglementation au niveau fédéral. Mais moi, je souhaite qu'on ait une couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire avant la souveraineté du Québec parce que sinon, ça pourrait être long un petit peu avant qu'on ait le cellulaire partout. Fait qu'on va travailler là-dessus. Puis je pense qu'on peut influencer le gouvernement fédéral. On l'a fait avec la fibre optique. On a été la première province, puis le gouvernement a mis beaucoup de sous pour nous supporter. Puis je pense qu'on va être capable de jouer un rôle auprès du gouvernement fédéral aussi pour qu'il nous supporte et qu'on allège toute la réglementation, notamment du CRTC.
Monsieur Watsou?
Oui, c'est rendu bien essentiel, les cellulaires, on n'a pas le choix. Tout passe par nos cellulaires, fait qu'on a besoin d'assurer que l'ensemble du Québec soit couvert par un réseau cellulaire adéquat et fonctionnel pour l'ensemble de chaque concitoyen.
Justement, vous avez abordé la question. Le fédéral, le gouvernement fédéral, les champs de compétences, c'est le fédéral qui ne collabore pas. Monsieur Lionel, là-dessus, est-ce que vous avez un mot à dire? Ce que Monsieur Dumas soulevait comme question, les compétences dans le domaine des télécommunications, entre autres.
Ben, au niveau de la fibre optique, ça n'a pas été un problème, là. C'est surtout les permis avec nos entreprises chez nous qui étaient un problème après les poteaux. Mais au niveau de CRTC, c'est certain qu'il y a des permis à demander. J'espère que ça sera jamais aussi long que les poteaux qu'on a eu pour accrocher les fils, là. C'était vraiment quelque chose de vraiment spécial. Est-ce que le CRTC peut aller plus vite? Ben, je crois que oui. Je pense que si on travaille avec le fédéral, il y a quoi à faire pour avancer le dossier puis répondre à des besoins urgents à certaines municipalités qui ont zéro cellulaire, là.
Monsieur Martin, vous avez eu à travailler sur plusieurs dossiers avec le fédéral.
Oui, mais c'est ça, puis je le redis, puis c'est un enjeu, la réglementation du CRTC, et je pense que, un peu comme on a fait avec la fibre optique, ça devenait gênant pour le gouvernement fédéral de ne pas avoir des programmes pour établir la fibre optique partout, compte tenu qu'au Québec, on est en train de le réaliser. Je pense qu'il va falloir faire la même chose avec le cellulaire, c'est de dire, nous autres, on va mettre l'argent nécessaire qu'il faut, puis le gouvernement, s'il ne paye pas sa part, on va le payer, mais ça peut devenir gênant pour lui si c'est pas dans toutes les provinces éventuellement.
C'est en effet très gênant pour le Canada et pour le Québec aussi. Le fédéral arrive toujours 5 ou 10 ans en retard, puis... J'apprécie la rigolade, mais justement, si on avait déjà notre état, je pense qu'on en discuterait même pas aujourd'hui de cette problématique-là. Faut penser 5 à 10 ans d'avance. Qu'est-ce qu'on va avoir à régler comme problématique? Puis je pense que la souveraineté du Québec là-dessus est encore très concret. On devrait avoir ces pouvoirs-là. On l'a identifié il y a très longtemps, cette problématique-là. Puis au niveau, on n'est pas obligé, comment dire, vous avez fait 21 demandes au gouvernement fédéral. Il n'y en a aucune qui a été acceptée. À un moment donné, il faut se rendre un peu à l'évidence puis se dire, c'est en ce moment un problème. On peut se dire que oui, on devrait avoir le cellulaire avant la souveraineté, mais tant qu'on ne réglera pas ce problème-là, ça va se répercuter sur tous les champs de compétences.
Merci à vous tous. On passe au dernier segment sur l'économie avec cette question. Les routes de la Rive-Sud seront de plus en plus achalandées avec le développement industriel prévu à Bécancour. L'autoroute 30 qui n'est pas dans les faits une autoroute qui n'est pas dans les faits une autoroute puisqu'elle n'offre qu'une seule voie de circulation dans chaque direction est reconnue pour être dangereuse. Que proposez-vous donc pour sécuriser cette autoroute et améliorer la fluidité de la circulation? On débute un tour de table avec M. Martel. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant.
Ben écoute, j'en ai fait un engagement électoral. On attend le diagnostic de sécurité de l'autoroute 30, mais moi, je m'engage à ce qu'on apporte qu'on fasse les travaux nécessaires pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 30.
Monsieur Dumas, votre tour.
Bien, en premier, je pense que le gouvernement en place a tendance à politiser beaucoup des enjeux de développement, dont celui des développements autoroutiers. Je crois qu'à la base, il faut faire confiance en nos ministères et en notre expertise au gouvernement. À ce point-là, c'est notre boulot de mettre de la pression, mais pour le plan de match, il faut faire confiance en nos ministères, puis voilà.
C'est maintenant au tour de M. Watsou. Vous avez 30 secondes.
Oui, bien la question, c'est d'améliorer la sécurité routière. Ça, c'est important. C'est important pour chaque concitoyen de la circonscription. Ça concerne le développement du territoire. C'est de faire des tables de concertation puis la mise en place d'un comité multiparti impliquant tout le monde municipal conjointement avec le ministère du Transport pour trouver, s'assurer le développement de notre région par la sécurité de cette voie publique-là.
Et on termine avec M. Lyonnais.
Est-ce que le dédoublement de l'autoroute 30 serait une option? Je crois que oui. On sait qu'est-ce qui s'en vient présentement, là, les industries qui s'en viennent, c'est si on veut éviter les transports qui vont avoir lieu dans nos municipalités qui sont proches. Mais je pense que pour sécuriser cette autoroute-là, il faut absolument l'élargir et donner une deuxième voie là, pour faciliter là, la sécurité. Là.
Merci. On débute une période de débat de 5 minutes sur un autre enjeu économique avec cette question de la journaliste Marie-Ève Veillette.
Le développement industriel à Bécancour amènera des retombées économiques importantes. Comme toutes les municipalités de la région, les communautés de Wolinac et d'Odanac voudront, elles aussi, obtenir leur part des retombées. Qu'entendez-vous faire pour que les deux communautés abénakis bénéficient aussi de ce développement? On débute cette discussion avec M. Watsou.
Ah. Ben, nous, on vise tout le temps l'autonomie gouvernementale dans nos deux communautés respectives. C'est pour ça qu'on a un agent de développement économique, puis on travaille fort pour assurer le développement de notre main-d'œuvre, parce qu'on contribue activement depuis plus de 400 ans à la vie active du Québec. Et on est des gens qualifiés, certifiés, compétents, prêts à participer au développement de l'industrie dans la circonscription de Nicolette-Bécancour.
Monsieur Martel, peut-être?
Écoutez, moi, je pense que je souhaite, évidemment, la collaboration de ces deux communautés-là. Et je pense que on peut être très, très fiers, la communauté Nicolet-Bécancour, avec ces deux communautés autochtones. Moi, je pense qu'on peut être très, très fiers. Je pense, entre autres, à Wolinac, qui ont développé une firme de génie. J'espère qu'ils vont avoir beaucoup de contrats par rapport à ça. On a travaillé ensemble au niveau du GMF, je dis on, ça exclut la personne qui parle, mais la communauté de Nac a travaillé avec la communauté de Pierreville, Bas-Saint-François, pour faire un GMS, être associé à un GMS. Moi, je pense que c'est des beaux exemples, ça, pour le Québec, pour des belles ententes entre les communautés. Moi, je lève mon chapeau à nos deux communautés, puis je pense qu'il y en a pour tout le monde dans ce qui s'en vient, puis j'espère qu'on va travailler ensemble.
Excusez-moi.
On parlait en début des raisons pourquoi on se présentait, puis c'est quelque chose que j'attribue beaucoup au travail d'un député, c'est de la capacité de rassembler et d'asseoir les gens conséquents entre eux. Puis ça, je pense, c'est un exemple concret de il faut reconnaître l'autonomie de ces communautés-là. Et de l'autre côté, on a un devoir, si on voit des lacunes, des faiblesses, ou au contraire même des opportunités, d'être un peu l'étincelle, puis de provoquer des rencontres entre nos MRC, nos municipalités et nos communautés. Puis je pense que en se donnant ce rôle-là comme député, on vient faciliter vraiment ce travail-là entre nos communautés.
Monsieur Lyonnais.
Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Depuis longtemps, nous, la municipalité chez nous, utilise les services à Wolinac d'ingénierie. La MRC travaille avec les cours d'eau. Et c'est ça que, regarde, dans le parc industriel, les contrats, il y a des contrats qui leur reviennent, qui doivent leur revenir en soumissionnant, puis en allant travailler là-dessus. Oh, et ils font partie de notre communauté. Wolinac et Odanak, pour moi, là, c'est nos municipalités, c'est nos communautés. J'ai même demandé qu'ils siègent des fois autour du conseil des maires, à la table du conseil des maires. Ça allait arrêter parce que fédéral, provincial, c'était un peu plus compliqué, mais j'avais fait une demande qu'ils soient avec nous autour de la table des maires.
J'élargirais en disant comment peut-on faire, justement, d'un point de vue gouvernemental, pour élargir les retombées au-delà de Bécancour et de la MRC de Bécancour. Je recommence peut-être avec M. Watsou sur cet enjeu-là. Des projets de développement industriel dans le parc industriel de Bécancour avec la filière batterie, comment faire en sorte que les retombées rejaillissent un peu partout sur le territoire au-delà de Bécancour?
Au-delà de Bécancour, ça va être la sous-traitance pour nourrir le parc industriel et portuaire. Puis ça va créer de l'emploi, ça va des retombées économiques, créer de l'emploi, pas juste dans notre belle MRC, mais dans notre belle circonscription, mais dans l'ensemble du Québec. Là, c'est pas la sous-traitance, ça se fait un peu partout sur le territoire du Québec. Fait que ça va avoir de retombées économiques pour nous et pour l'ensemble des gens qui vont être en partenariat avec nous.
Savez-vous quoi? Je me projette, député, puis je me dis que la SPIB, c'est quand même un outil très intéressant. J'aurais tendance à aller m'asseoir avec eux et de voir c'est quoi les plateformes, c'est quoi les programmes qu'ils ont pour favoriser l'achat local. Est-ce que c'est bien implanté dans les mœurs de la SPIB, mais c'est eux qui accompagnent les entreprises. Je pense aussi à notre chambre de commerce aussi, ils ont un rôle à jouer. Je crois que comme député, c'est ce que je ferais. J'irais m'asseoir encore une fois avec ces organisations-là.
Un peu comme Jacques a dit, il peut y avoir des retombées au niveau de l'emploi, il peut y avoir des retombées au niveau de la sous-traitance. La communauté d'Odanak a quand même développé un petit incubateur là, sur son territoire. Il peut y avoir des petites entreprises. Mais vous savez, j'ai déjà rencontré des promoteurs d'entreprises du parc industriel qui se sont associés. Des fois, le projet n'a pas vu le jour. Je ne sais pas si ça va voir le jour, mais ils se sont associés avec des partenaires de la communauté parce qu'ils se disent, nous, on s'en vient chez vous. ça serait peut-être le fun que les communautés aient une partie d'action dans l'entreprise qu'on amène chez vous. Donc, ça peut être même un plus au niveau attractif là pour nos entrepreneurs.
En conclusion, M. Lyonnais, peut-être?
Mais là-dessus, je suis d'accord avec vous autres que garder, s'associer avec les gens qui s'en viennent proches, développer avec les gens, puis oui, il va y avoir des retombées qui en delà de Nicolet Bécancourt. Mais si on peut aller chercher le plus possible chez nous, c'est un must.